Mon petit lapin, j'aime tes grandes oreilles, tes petites quenottes et ta queue en pompon.
Mon petit lapin, à notre monde, pas si belle, notre pas si belle.
Mon petit lapin, tu es mon seul ami. Tu ne me dis rien, mais je sais que tu m'aimes aussi.
Bonjour, bonjour, c'est Possible or Not Possible, la demi-heure consacrée au village des possibles, toujours en direct du festival Esperanza à Floref. Alors exceptionnellement aujourd'hui, pas de chance puisque notre émission sera écourtée de 10 minutes. Cody Chestnut qui passe ce soir au festival fera l'honneur de venir faire une interview à 17h20-25. Mais pourtant aujourd'hui nous sommes sur ce plateau 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. J'ai 9 invités.
Possible or not possible.
Eh ouais, c'est possible d'avoir 9 invités à Radio Esperanza. C'est cool. Bon, bonjour à tous. On va faire un petit tour de table rapidement. On a à la fois le musée du capitalisme. On a 1, 2, 3 logements qui est un collectif belge. C'est bien ça, hein, qui milite et réinvente la vie dans des espaces qui n'étaient pas occupés, plus occupés. Le musée du capitalisme. Et puis on a Bruno et Jean-Gabriel. J'ai du mal à retenir ton prénom. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour messieurs à droite.
Bonjour.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonjour toute seule.
Bonjour, bonjour.
Alors on va commencer, on va faire un petit tour de table puisque donc dans le village des possibles, ce sont il y a 15-20 associations collectives qui fourmillent.
30.
Oh là là, la com là. Il y a, il y a une trentaine d'associations et de collectifs qui fourmillent pour essayer de réinventer la vie et de proposer des alternatives à cette société capitaliste. Donc ils échangent tout ça avec les festivaliers. Musée du capitalisme, c'est quoi? C'est tout nouveau, j'ai l'impression. En tout cas, vous êtes nouveau sur le festival. Delphine, par exemple?
Mais donc le musée du capitalisme, c'est l'idée de rendre pédagogique en fait et de vulgariser ce que c'est le capitalisme au travers d'un musée. Et donc dès janvier 2014 en fait, on sera à Namur, à l'université de Namur, et ce sera le moment en fait de présenter voilà justement le musée qui parcourra un peu à la fois l'histoire du capitalisme, ses espoirs, voilà une série de ses dérives aussi, et de voir dans quelle mesure on peut aussi déboucher sur une série d'alternatives. Voilà.
D'accord. On est dans les causes, la critique, mais aussi la proposition d'alternatives.
Oui.
D'accord. Comment ça se décline sur le festival, ce musée du capitalisme? Qu'est-ce que vous proposez aux festivaliers pour vulgariser?
Mais donc l'envie, c'était de confronter notre concept à la réalité, puisqu'on a une dizaine à préparer ce musée et on a peu de moments où on peut aller à la rencontre des gens. Et pour nous, c'est important de dépasser l'aspect théorique parce qu'il y a beaucoup de livres, beaucoup d'universitaires qui se sont exprimés sur le sujet. Et ici, c'est l'idée de discuter avec les gens de leur représentation du capitalisme, parce que le capitalisme n'est pas une idéologie politique comme le communisme ou le socialisme. Donc ça n'a pas été pensé par des personnes à la base. C'est quelque chose qui est c'est un système inscrit dans la société. Et donc on peut se forger sa propre définition, même si beaucoup de penseurs l'ont fait. Donc du coup, ce qui est très chouette ici, c'est qu'on propose une animation, un jeu de fléchettes avec des mots, et on propose aux gens de lancer une fléchette sur les mots qui pour eux font partie de la définition, et du coup on lance la discussion avec eux. Et puis on a mis aussi...
C'est-à-dire, il y a une... Parce que moi, j'ai vu des épingles à linge qui tenaient des mots.
Voilà, ça, c'est l'autre. Olivier va nous expliquer l'autre animation.
Non, mais continuons sur cette première...
Les fléchettes, là, c'est plutôt les mots comme exploitation, progrès, culture, démocratie, individualisme, globalisation. Et donc, c'est pour voir qu'est-ce qu'on met dans la définition, quels mots on met ou pas dans la définition du capitalisme.
D'accord. Ça prend bien au niveau des festivaliers? Comment ça se...
Ah, on est très surpris parce que, comme je vous disais, c'est la première fois qu'on fait ça. Et on a vraiment des belles discussions avec les gens. Donc, c'est toujours un point de départ. Et après, donc là, par exemple, cet après-midi, j'ai discuté avec une dame qui est formatrice en entreprise, dans management d'entreprise, et qui a une réflexion critique sur son métier, sur l'entreprise. Et donc, du coup, comme on a un focus où on va parler du monde de travail dans le capitalisme, on s'enrichit chaque fois avec ces discussions.
Quand vous dites vulgariser, c'est-à-dire rendre populaire, entre guillemets, une histoire finalement qui est un peu mal connue. On parle tous du capitalisme, on ne sait plus ce que ça veut dire, on ne se rappelle plus forcément de l'histoire qu'on raconte dans les livres et pas forcément la réalité. Est-ce que c'est un peu l'éducation populaire aussi? Enfin, on aime bien le mot éducation populaire en France, je demande.
On est en France alors?
Non, mais...
Effectivement, notre envie est vraiment de
toucher un large public, pardon.
Qu'est-ce que tu dis?
Je disais juste qu'en Belgique, on dit éducation permanente. C'est la même chose, mais c'est juste un autre mot.
D'accord, super. Voilà. Bah, tu vois, j'apprends des choses tous les jours à Radio Esperanza.
C'est pas exactement la même chose, apparemment, selon certains.
Mais on peut faire une émission demain sur l'éducation permanente. Voilà. Et populaire.
En tout cas, nous, à propos d'éducation, un des points de vue vraiment importants du musée, c'est de toucher un large public. Et entre autres, on a beaucoup de contacts avec des associations qui travaillent avec des écoles. Donc effectivement, il y a l'idée de faire de l'éducation, d'inviter les écoles à traverser le musée, avec des animateurs, leur forger leur image de ce qu'est la réalité du capitalisme dans leur vie de tous les jours. Et ça m'envoie un peu vers la deuxième activité qu'on tient ici aujourd'hui à Esperanza. C'est donc une liste de mots de la vie de tous les jours qui permet à des gens qui n'ont pas envie spécialement de jouer aux fléchettes à côté ou parce que le stand est occupé, d'aller choisir 2-3 mots et ensemble voir comment regarder la télévision, comment aller se faire des courses, comment aller faire toutes les choses qu'on fait tous les jours qui sont pas spécialement capitalistes ou non, mais qui peuvent s'inscrire d'une manière ou d'une autre plus dans un système capitaliste par la manière dont on l'aborde. Et donc oui, de cette manière-là, ça permet à chacun de vulgariser ce qu'il fait lui tous les jours dans notre système actuel.
Moi, je dois avouer que ce qui m'a beaucoup plu dans le musée du capitalisme, pourquoi j'ai accepté direct quand Olivier m'a proposé, c'est que pour moi, un musée, c'est un peu tout ce qui est vieillot, archaïque, c'est le passé. Et le capitalisme appartient au passé, donc il faut avancer. Et du coup, j'aime bien ce terme de musée du capitalisme. Et c'est ça un peu aussi que vous renvoyez avec les festivaliers. Et le fait que ça prenne et que vous soyez conforté dans votre idée, je trouve ça génial, quoi. Donc, je suis content qu'on ait pu ensemble avoir cette opportunité de avancer avec les gens pour dire « Ok, maintenant, on laisse le capitalisme derrière et on crée une autre société ensemble. »
Justement, en parlant de création de société ensemble et d'alternatives au capitalisme, on a à ma droite, enfin à notre droite, donc 1, 2, 3 ou 123 logements. Bonjour messieurs, donc il y a Bart, Réginald, Denis, Xavier et Adrien, si je ne me trompe pas, ouais. C'est ça. Qui nous explique justement ce qu'est 123 logements pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas.
On est très machiste.
Hein. Oui, on est très machiste d'ailleurs là, bon. Dans Possible or Not Possible. Il y a deux femmes à table.
Ce qu'on fait, en deux mots, c'est créer du logement en occupant des bâtiments qui sont vides. On s'occupe de ces bâtiments.
D'accord, donc c'est à la fois du squat pour loger et aussi pour proposer une alternative dans la manière de vivre ensemble aussi.
Oui. Ouais, et après, c'est pas non plus forcément du squat. Parfois, on négocie à l'avance. On peut avec des propriétaires si on peut avoir un bail précaire ou des trucs comme ça.
Donc parfois, ça passe via une occupation, parfois via une négociation. Ouais. Et donc oui, ce qu'on propose, on essaye dans la plupart de ces bâtiments de mettre en place une vie collective. Avec un groupe qui est mixte, donc avec des personnes qui viennent de la rue, avec des personnes sans papier, avec des artistes, avec des militants, donc avec des étudiants, donc c'est vraiment un mixte. Et oui, je dirais que on essaie aussi de. Il y a quelques principes, le prix libre, la récupération de meubles, de matériel, de nourriture aussi, qui sont appliqués au 123. Et donc on essaie, oui, de créer un mode de vie un peu alternatif, de montrer autre chose, de montrer qu'une vie alternative ou différente, même en ville, est possible.
Donc le 123, rue Royale, c'est un bâtiment que vous occupez, sur lequel vous avez un bail précaire, c'est ça?
Un contrat d'occupation temporaire.
Ah, un contrat d'occupation temporaire.
Convention.
Ouais.
Convention, donc en fait c'était un bâtiment public.
Et Jean Wallon.
Racontez-nous vite fait l'histoire de ce bâtiment
merci d'ailleurs.
Le bâtiment appartient à la région Wallonne.
Sinon on n'aurait pas de logement.
Et puis il était vide depuis je crois 2 ans.
5.
Plus
5
ouais. Ah, bon, j'entends jamais la même chose.
Mettez-vous d'accord.
Et on avait occupé un cloître avant, et on s'est assez vite fait jeter, quoi. Et tout près, il y avait ce bâtiment qui nous attendait, qu'on a occupé, et on a assez rapidement pu obtenir un accord avec les propriétaires, parce que c'était... ça peut être plus facile d'obtenir un accord avec des propriétaires publics que des propriétaires privés.
Oui, tout à fait. Même souvent, en France, il y a aussi on a pas mal de collectifs qui squattent et des expulsions et des et comment on appelle ça, des tribunaux avec les propriétaires privés. Je ne sais pas si vous connaissez le collectif Jeudi Noir, mais il s'en est mangé beaucoup avec des amendes qui vont jusqu'à 90 000, 100 000 euros, des amendes solidaires après. Donc c'est vrai que c'est plus facile à gérer avec le public, mais parce que aussi pour eux, il y a une valeur politique d'une certaine manière, c'est-à-dire que...
Mais dans ce milieu de squattage, le 123 se situe quand même un peu dans le côté de gens qui veulent, quelque part par nécessité, mais qui veulent aussi politiquement et par leur occupation montrer que voilà, il faut faire quelque chose. Il y a une crise de logement, il y a des gens qui souffrent, qui sont mal logés, qui ne sont pas logés. Et donc voilà, il y a ces bâtiments qui sont vides, il y a même des instruments qui existent pour le gouvernement qui ne sont pas utilisés, donc occupons ces bâtiments nous-mêmes. Et ça marche, donc fallait quand même, c'est pas la solution pour la crise du logement, mais en attendant ces solutions, je ne sais pas s'il y aura des solutions qui vont venir, mais en attendant, disons, c'est en tout cas une alternative de logement pour pas mal de gens.
Moi, j'aime beaucoup quand tu dis crise du logement, parce que c'est le mot correct, hein, c'est une crise du logement, mais on peut avoir l'impression que cette crise, elle tombe un peu du ciel, que c'est pas de chance. En fait, non, il y a vraiment une spéculation politique. Enfin, il y a une spéculation des propriétaires pour qu'il y ait moins de logements disponibles, pour pouvoir faire monter les loyers des logements qui restent. Et donc, c'est intéressant de pouvoir aussi aborder ce combat-là avec cet aspect de... Non, c'est pas anodin. Oui, c'est lié encore une fois au capitalisme qui appartient à un musée. Mmh. Et avançons. Et ce que je trouve génial avec le 123 et pour lequel je trouve vraiment superbe qu'il soit dans le village des possibles, c'est que tout ce qu'on fait ici, ils le font au quotidien. C'est-à-dire qu'ils appliquent déjà de manière transversale toutes les attitudes qu'on peut adopter pour poser les bases à un nouveau monde. Mmh. Et c'est ce qui rend en fait leur présence sur le village difficile, parce qu'en fait on fait déjà tout ce qu'ils font et donc ils savent pas comment se profiler. Ils sont venus avec un four à pain que pour des raisons de sécurité on peut pas utiliser, mais qui est génial. C'est un four à pain que tout le monde peut construire avec des briques chez soi et qui fait du putain de pain, quoi.
Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui relève un peu de la construction de l'utopie au quotidien, et que l'utopie est finalement, si on le prend au premier degré, ça peut être très très mal perçu, et en même temps l'utopie c'est ce qui a fait avancer les choses de manière positive en général. Donc c'est vrai qu'on est souvent perçu un peu comme les utopistes, mais que ça prend de plus en plus corps, plus on est en contact à Esperanza avec d'autres associations, on se rend compte que tout ça va dans le même sens, et voilà.
Et donc,
on a des modes d'emploi pour squatter, pour occuper, et il y a plein d'experts qui sont présents au stand qui peuvent expliquer comment répondre à toutes les questions qui pourraient se poser, et il y a déjà pas mal de documentation.
Le guide du squatter.
Ouais, exactement. Donc tout ça, il faut venir au village des possibles. On est là encore demain jusqu'à 10h. C'est ça, jusqu'à 10h?
Oui, oui.
Donc voilà, il faut venir. À partir de quelle heure?
De 3h. 3h30 à partir de l'ouverture.
Okay. Et alors, juste pour midi, avant de passer la parole à Jean-Gabriel, hein, c'est ça? Où est-ce qu'on peut vous retrouver, ou vous supporter, ou vous aider, donc le musée du capitalisme?
Donc on a un site internet, museeducapitalisme.org.
Museeducapitalisme.org.
123 rue Royale.be.
Mais c'est pas très à jour.
123 rue Royale.be. On passe la parole à Jean-Gabriel qui est venu nous faire une petite visite. Il a accompagné Bruno, ce grand Bruno du village des possibles. Un petit coucou, envie de nous dire quelque chose. On n'a plus qu'une minute.
Eh bien, très bien, je vais essayer de mettre à profit ce temps précieux. Non, mais voilà, donc moi je suis juste bénévole à la base pour Bruno. J'ai eu l'occasion de découvrir ce village vraiment par moi-même. Bruno m'a dit, voilà, maintenant tu es posé là-dedans, essaye de voir un peu si ça prend, si ça prend pas. Et j'ai trouvé que la sauce prenait vraiment bien. On a l'occasion de découvrir des gens qui offrent concrètement des alternatives au quotidien. C'est pas juste uniquement, tiens, je vais vous apprendre à faire une pince à linge avec deux bouts de bois. Il y a une démarche politique derrière, il y a une démarche constructive. Mmh. Et donc, c'est pas uniquement l'idée de se dire, voilà, je vais pouvoir après faire mon liquide vaisselle moi-même, mais c'est, aujourd'hui, je construis un autre monde moi-même.
Mmh. Eh ben, on va finir avec ces mots-là. Je suis désolée, j'aurais aimé qu'on ait un quart d'heure de plus tous ensemble. Moi, je me suis sentie bien avec vous, mais mes collaborateurs, mes copains vont accueillir Cody Chestnut en direct sur Radio Esperanza. C'était Possible or Not Possible. Merci, salut.
Merci.